Il était une fois, ça commence comme ça, pas toujours, mais c'est un début possible. Une marchande de foie dans la ville de Foix qui se dit « ma foi », ça c'est la comptine. Mais souvent, c'est le conte qui s'ouvre ainsi. Il était une fois, début de l'émerveillement.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Un conte qui commence de la manière la plus traditionnelle pour dire l'injustice du monde, quelques dizaines de pages, pas plus, pour raconter l'histoire de Rêve et de sa grand-mère. En cette semaine de la francophonie, une histoire tout simplement signée David Diop. Bonjour.
Bonjour.
Il était une fois, ainsi commence donc le pays de Rêve. Est-ce que c'était pour vous une évidence, comme dans les contes de Perrault ?
Oui, il fallait que ce soit un conte. Cette petite histoire d'une jeune fille qui part à l'aventure. Parce qu'un conte, c'est une façon de raconter universelle. Et pour moi, il était très important de ne situer nulle part ce conte, mais en même temps partout.
Mais il était une fois, c'est pas dans tous les pays qu'on commence les contes avec cette formule.
Alors, il y a des formules, des rituels. Je les ai entendus au Sénégal, où ça pourrait correspondre à « il était une fois », où finalement l'attention du public est sollicitée par une phrase. J'ai entendu la même chose aussi aux Antilles. Donc je crois qu'il y a quand même des rituels de mise en place de l'histoire.
Ça c'est évident, mais pas forcément avec la même formule. Non. Est-ce que vous vous inscrivez avec cette formule dans la grande tradition occidentale des contes ?
Oui, mais pas seulement. Les contes viennent de tous les pays. Ils obéissent à la même structure. Donc, en effet, moi, je suis francophone, je parle le français, c'est ma langue d'écrivain. Et donc, pour moi, en effet, l'entame du conte, c'est « il était une fois ». Mais ça n'appartient pas simplement à l'Occident, le conte.
On vous a beaucoup raconté d'histoires qui commençaient par « il était une fois » quand vous étiez petit garçon.
Oui, on m'a raconté beaucoup d'histoires et ensuite quand j'ai su lire, je me suis précipité sur les contes. J'ai une affection particulière pour les contes parce qu'il y a toujours ce parcours initiatique dont je me lâche jamais, où les personnages finalement surmontent des difficultés incommensurables et où ils apprennent finalement la vie et nous l'enseignent en même temps.
Alors ce pays de rêve, c'est l'histoire d'une très belle jeune fille, ce sont les premiers mots, orpheline qui vit avec sa grand-mère dans une ville décharge. Vous la situez où cette ville ? Elle n'est pas en Europe.
Elle peut être dans certaines zones d'Europe où il y a vraiment une grande, où règne une grande pauvreté. Je n'ai pas voulu la situer très précisément dans le monde. Simplement, au début du conte, je parle de toutes les céréales qui peuvent être cultivées partout. Donc, je parle de maïs, je parle de blé, je parle de riz. Et donc, pour moi, c'était important de ne pas désigner un lieu de départ précis. Parce que, en effet, le monde est rempli d'endroits où règne une pauvreté si grande que, eh bien, il y a un rêve de départ qui peut naître dans ces endroits-là.
Et cette ville est dirigée par le grand désœuvré. Alors je me suis dit, le grand désœuvré, mais ça pourrait être qui ? Pourquoi il l'appelle le grand désœuvré ? Je me suis dit, il va me répondre.
Eh bien, écoutez, je vous réponds ceci. Le grand désœuvré, c'est un peu comme tout ce qui se passe pour les personnages dans ce roman. C'est que je désigne ces personnages sous des titres qui les montrent et les cachent à la fois. C'est un conte qui est un peu allégorique. Hein, où Rêve ne s'appelle pas Rêve par hasard et où le grand désœuvré, en l'occurrence, ne s'appelle pas le grand désœuvré par hasard. C'est un pilleur, un ennemi de son propre peuple et ça existe un peu partout.
Rêve, c'est un vrai joli prénom, c'est un vrai nom, ça révèle plus que ça ne cache, non ?
Alors, Rêve, c'est un prénom qui est très beau, mais je ne connais personne qui s'appelle Rêve.
Moi non plus.
Donc c'est aussi un nom ou un prénom de littérature. Et puis c'est un prénom évidemment que je n'ai pas choisi par hasard. Je voulais qu'il y ait un jeu de mots sur le pays de rêve. Le pays de rêve, c'est comme vous l'avez dit en introduction, un pays invivable. mais c'est quand même le pays de rêve.
C'est-à-dire que c'est le pays de la jeune fille,
oui.
Et c'est en même temps le pays dont on rêve.
Alors elle rêve de s'enfuir de ce pays-là. Elle veut s'enfuir de ce pays pour aller vers un pays qu'elle rêve. Un pays où elle serait libre, j'imagine, ou en tout cas où elle ne serait pas obligée de lutter pour son existence tous les jours.
Partir est le seul rêve possible pour elle.
Oui, en l'occurrence dans ce conte-là, et puis peut-être aussi dans tous les contes, on part. On quitte une rive pour essayer d'en atteindre une autre. Alors ce qui peut être important, c'est le chemin, le voyage. Et c'est dans ce voyage qu'on trouve des enseignements et justement une instruction qui dépasse notre propre expérience.
David Diop, est-ce que c'est un conte sur la migration, le voyage, le chemin, ou sur l'immigration, c'est-à-dire vraiment le fait de quitter son pays pour un ailleurs?
Alors là, c'est une histoire, un conte où mon personnage ne reviendra pas.
Donc c'est une immigration.
C'est une immigration. C'est un personnage qui s'exile pour ne pas revenir. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, des migrants qui, une fois qu'ils sont partis, bien espèrent ou pensent revenir.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de morale dans cette histoire, parce que finalement, vous la laissez partir.
Oui.
Et elle part.
Oui.
Et elle a l'air d'en être heureuse.
Oui, tout à fait. Alors, pas de morale, si, quand même. Puisque, eh bien, l'histoire de rêve, c'est aussi l'histoire d'une relation avec sa grand-mère. L'histoire d'une transmission et d'une bénédiction, d'une certaine façon. Alors, le prénom de la grand-mère, que je ne révèle qu'à la fin...
Donc, eh bien, on va le taire.
On va le taire, oui, absolument. Signifie que le rêve doit le nourrir, ce prénom.
Donc, ça fait un peu rébu, là.
Ah oui, c'est très compliqué. Mais il y a une morale. Il y a un respect très fort. Donc forcément, il y a une morale dans cette histoire.
David Diop, pour faire danser rêve, si jamais elle décide de venir à Paris, sur les platines de Vive Voix, le duo Dopamoun. Encore sur RFI, nouveau titre du duo Dopamune, sorti il y a quelques jours, de même que le nouveau récit de David Diop, Le Pays de Rêve, un conte initiatique sur l'injustice du monde. Écrire un conte, c'est-à-dire une forme courte, David Diop, quand on a l'habitude d'écrire des romans et d'être salué pour cela, je rappelle votre prix Goncourt des lycéens pour Frères d'âme, roman qui a obtenu aussi le Booker International Prize en 2021. Honneur suprême. Cela suppose quoi d'écrire plus petit, d'écrire un conte?
Alors, dans un conte, il y a du conte et de la nouvelle dans Le Pays de Rêve. Je prépare une chute. Et donc, c'est une technique d'écriture qui oblige à sous-peser presque chaque mot. Et c'est un exercice qui est difficile, mais en même temps intéressant. Donc, j'organise en fait la brièveté autour d'un souvenir permanent de ce qui doit être activé ou réactivé pour préparer la chute, la fin du conte ou de la nouvelle.
C'est-à-dire qu'à la première ligne, vous savez, on ne le dira toujours pas, mais quel est le dernier mot, donc le prénom de la grand-mère?
Exactement. C'est ce que permet les formes courtes. Les formes courtes permettent, à mon avis, en tout cas pour ma pratique de l'écriture, de prévoir très précisément une fin. Sur les formes plus longues, comme dans le roman, il y a une part de découverte de la fin qui advient petit à petit, et qui n'est pas nécessairement donnée dès le début. Après, ça dépend des écrivains, mais moi, je fonctionnerai plutôt comme ça.
Mais vous écrivez beaucoup de nouvelles, parce que jusqu'à présent, seuls des romans ont été publiés.
Oui, oui. Non, c'est assez rare. Vraiment, Le Pays de Rêve, c'est une nouvelle.
C'est une première.
C'est une première, voilà. J'avais écrit un conte pour enfants aussi, mais c'était Le Petit Pince. C'est un conte qui est passé à la radio, mais c'était le seul exercice que je pratiquais de ce type-là.
Et c'était un clin d'œil au Petit Prince, j'imagine.
C'est ça, oui, Le Petit Prince, c'est un crabe des antipodes.
Vous aimez les contraintes?
Je pense que les contraintes, alors ça dépend d'où elles viennent. Pour ce qui est de l'écriture, je pense que, évidemment, ce n'est pas nouveau ce que je vais dire, mais la contrainte est absolument nécessaire. S'imposer une difficulté, ça, je pense, permet de découvrir dans l'écriture des choses qu'on n'aurait pas imaginées ou soupçonnées avant.
Alors, pour parler d'écriture pendant quelques secondes encore, j'ai lu au détour d'un article que vous écriviez à la main.
Oui.
C'est vrai?
Oui, oui,
mais
ça
existe. Mais
vous
savez que l'ordinateur a été inventé.
Oui, oui, mais je le sais très bien. J'ai un ordinateur que j'utilise beaucoup. En tant qu'universitaire, j'écris des livres et je les écris directement. Bon, j'ai un plan, bien sûr, mais je dactylographie sur un traitement de texte ce que je dois écrire sur tel ou tel sujet.
Donc la main, c'est pour le roman?
Alors la main, c'est
pour la fiction.
C'est pour la fiction. Alors je me suis cherché, c'est-à-dire que j'ai essayé d'écrire des livres avec l'ordinateur directement et ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que je peux écrire, mais il y a quelque chose qui me manque. Il me manque le rythme, en fait. Et le rythme, c'est le stylo sur du papier. C'est peut-être un retour au geste primordial ou primitif de l'apprentissage de l'écriture. Et si je ne le fais pas, j'ai l'impression de manquer quelque chose quand j'écris.
C'est assez mystérieux quand même ce que vous racontez.
Oui, mais ça l'est pour moi-même. C'est-à-dire que je ne saurais pas vous expliquer très précisément pourquoi ça fonctionne comme ça. C'est le résultat de plusieurs tâtonnements. Et à l'arrivée, vraiment, moi, ce que je préfère ou que je conserve dans ce que j'écris, c'est ce que j'ai d'abord écrit sur papier avec un stylo.
Et êtes-vous, David Diop, de ces écrivains qui écrivent en pensant au lecteur ou vous écrivez d'abord pour vous-même?
Alors, j'écris d'abord pour moi-même. C'est une activité assez égoïste, dans le fond. Mais en écrivant, je suis lecteur aussi, déjà. Et il faut que ce que j'écrive me convienne ou en tout cas corresponde à ce que j'avais imaginé. Et donc là, j'oublie les autres lecteurs.
Mais quand vous écrivez une nouvelle ou un conte comme Le Pays de Rêve, c'est destiné, et c'est d'ailleurs publié dans une collection jeunesse, chez un éditeur qui est relativement engagé, vous êtes obligé de penser à ce lectorat. C'est pas n'importe importe lequel. Est-ce qu'on n'écrit pas un peu différemment quand on sait qu'on s'adresse à des jeunes gens, jeunes filles de 14 ans ou de...
Alors, en fait, ce texte, au départ, n'était pas destiné aux jeunes gens et aux jeunes filles de 14 ans, comme vous dites. C'était un texte destiné à un public de lecteurs adultes. Et je suis enseignant, et quand je vais dans des lycées ou des collèges, je ne parle pas aux enfants, je ne m'adresse pas à eux d'une façon simplifiée. Je pense que tout le monde, et notamment les plus jeunes, arrive à comprendre la complexité du monde à travers la littérature. Elle ne leur est pas inaccessible. Et je n'essaie pas de simplifier. Ce qui s'est passé pour les éditions Rajout, c'est qu'ils m'ont demandé d'amplifier certains passages pour peut-être clarifier les relations, notamment entre Rêve et sa grand-mère. Mais ça a été très peu de choses. Donc, je pense qu'au départ, la démarche n'était pas de m'orienter vers un public donné. Et les choses sont venues toutes seules, puisque Rajout a souhaité que ce texte soit publié pour la jeunesse.
Donc, mauvaise question. Vous continuez à écrire quoi qu'il arrive, quel que soit le public.
Voilà, c'est ça.
À l'âge de Rêve, elle a quel âge d'ailleurs, Rêve ?
Oh, c'est une toute jeune fille. Elle a l'âge peut-être des lectrices et des lecteurs qui vont prendre le livre entre leurs mains.
Vous rêviez d'être écrivain à son âge ?
Alors, j'ai rêvé d'être écrivain, oui. Mais à la limite, peut-être que je vais me livrer ici à une confession. J'avais envoyé... Il y avait un sujet de nouvelle qui, il y a très longtemps, avait été proposé par RFI. Et j'avais envoyé une nouvelle et elle avait été refusée.
Oh !
Mais c'est une très bonne chose.
Quelle grave erreur !
Non, c'était au contraire. Ça m'a rendu service. Je pense que j'ai fini d'apprendre à vivre avant de devenir écrivain.
Avec quelle intention vous vouliez être écrivain ?
D'abord, vraiment, l'activité d'écrire, c'est quelque chose qui est très étonnant, qui me surprend. On a dit le mot mystérieux tout à l'heure. Et je cultive, en fait, cet étonnement devant l'inspiration. Et donc, c'est une intention qui me regarde en premier chef. C'est-à-dire que vraiment, l'activité d'écrire me plaît. Et ça ne s'arrête pas là. Ensuite, évidemment, la rencontre avec les lecteurs, les strates de sens qui s'ajoutent à celles que j'ai pu imaginer et qui me font revenir sur le texte et finalement le redécouvrir, ça, c'est, je trouve ça passionnant.
David Diop, à 7h, j'aimerais que vous lisiez un extrait, c'est le début du Pays de Rêve, donc cette nouvelle, ce conte pour tout public.
Toute petite encore, Rêve avait été recueillie par sa grand-mère paternelle qui l'avait élevée en tâchant de la cacher aux yeux du monde. La beauté d'une jeune femme dans le pays de rêve était dangereuse, un appel au crime. Dans l'attente de jours meilleurs, la grand-mère de rêve l'avait enlaidie de haillons, de crasse et de misère. Elle l'avait ensevelie loin de la campagne, dans une ville de briques et de brocs, un cauchemar de plastique rabougri, de tôles ondulées trouées et de cartons délités. Une ville fumée d'immondices. La grand-mère prévoyait un avenir radieux à Rêve, mais avant tout, elle devait la protéger du mauvais œil. Celui des soldats désœuvrés glisse sur la laideur et ne s'arrête que sur la vive beauté pour la moissonner aussitôt. C'est pourquoi sa grand-mère s'efforçait de ne pas trop montrer Rêve. Depuis son plus jeune âge, Rêve ne sortait que la nuit du taudis de métal où elle vivait. Pour subsister, ombre parmi les ombres, Rêve se servait dans les poubelles débordantes de sachets gras et de canettes à moitié vides du palais du grand désœuvré. Pour se vêtir, c'était à la décharge montagne, amoncellement vertigineux d'habits pulvérulents, couvrant le sable de la plage et cachant la mer à l'ouest. La vie de Rêve et de sa grand-mère se passait à convoyer des détritus depuis des décharges à ciel ouvert jusqu'à leur cabane poubelle hérissée de fils de fer rouillés.
Le pays de rêve, qui s'avère donc être un enfer. David Diop, est-ce que lire à haute voix est un exercice qui vous est familier ?
Alors, si vous me posez la question après ma lecture, je m'inquiète.
Pourquoi non, pas du tout.
Auriez-vous trouvé ma lecture hésitante ?
Elle est absolument parfaite, bon. Mais là, j'interroge l'écrivain dans sa pratique d'écrivain.
Alors, je ne passe pas mon texte au gueuloir, comme Flaubert. Essayer d'entendre sonner son texte. Je crois que j'ai appris à lire ce que j'écrivais en Allemagne. Parce que les festivals littéraires ou les rencontres littéraires, elles sont fondées là-bas sur la lecture du texte. C'est très différent des pratiques en France où on vous parle du livre, à part chez vous, hein, vous m'avez demandé de lire un extrait du texte, mais là-bas, on vous demande systématiquement de lire votre texte. Et je n'aimais pas lire mon texte. C'est là-bas que j'ai appris à commencer à aimer cet exercice.
Mais en écrivant, vous ne passez pas par la phase orale.
Non.
Pas forcément.
Non.
Un mot doit quand même sonner, qu'il soit d'ailleurs en français ou en Wolof, parce que vous parlez Wolof. Et,
oui.
Et on trouve d'ailleurs trace de cette langue dans vos romans, dont le dernier en date,
oui,
La porte du voyage sans retour.
Oui, mais c'est une voix intérieure, c'est-à-dire que j'entends le rythme du texte en même temps que je le vois et que je le lis. Donc, pas nécessairement par la voix. Par contre, je suis très sensible à la lecture qu'on peut faire de mon texte. Bon, par exemple, celle d'Oumar Sy pour Frère d'âme m'a vraiment frappé, parce que c'est une voix qui s'incarne.
Vous êtes né en France, David Diop, mais une partie de votre enfance s'est passée au Sénégal. Vous écrivez en français, vous dites que c'est votre langue d'écrivain, mais vous parlez aussi Wolof. Vous avez le sentiment d'être entre deux langues ou entre deux cultures où les choses sont tranchées?
Alors, en fait, ma langue maternelle, c'est le français. Et ma langue d'écrivain, c'est le français. Je parle en Wolof, qui est absolument rudimentaire par rapport à ce que je peux dire en français. C'est la langue de mon père, c'est la langue de ma famille, la langue de mes amis, mais je ne sais pas l'écrire. Et c'est une langue, pour moi, qui n'a pas vocation à devenir ma langue d'écrivain. Mais ce qui est fantastique, c'est l'histoire de ma famille qui a fait cela, c'est que mon père et ma mère ont décidé de venir nous élever au Sénégal, ma sœur et moi. Et du coup, il me semble deux sensibilités culturelles. Et je crois que même si j'écris en français, à travers un usage parfois particulier de l'écriture du français, j'arrive à concilier ces deux sensibilités-là.
Et puis vos romans se passent toujours entre les deux pays, ou en partie au Sénégal. Enfin, il y a toujours ce regard de l'autre, que ce soit le tirailleur sénégalais dans Frères d'âme ou ce botaniste français qui apprend le Wolof dans votre dernier roman.
Oui, ce sont finalement tous ces personnages-là des voyageurs, hein, plus ou moins contraints, et qui vont d'une rive à l'autre, un peu comme ce qu'a fait ma famille.
Un peu comme vous aussi.
Oui, tout à fait.
Alors, cette semaine de mars, David Diop, et celle de la langue française, avec le 20 demain, donc la journée internationale de la francophonie. Donc, faut-il faire l'éloge du français aujourd'hui, à l'heure où beaucoup de pays africains, notamment, se détachent de cette langue française? On va en parler, mais donnons la parole d'abord à Alain Rey, qui fut l'un des plus grands érudits de l'histoire de la langue.
La langue française se ressource toute seule fort bien en France même, mais ça n'est pas suffisant. Parce que l'accès à d'autres manières de penser, à d'autres passés, à d'autres identités culturelles est une chose que très peu de langues ont la chance de vivre. Et elle nous apporte des choses très très étonnantes qui vont de l'Océanie, de la Nouvelle-Calédonie au Québec, en passant par une bonne partie de l'Afrique, le Maghreb. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait considérable, avec une richesse d'inspiration, une variété de thèmes et de registres littéraires que très peu de langues ont la chance d'avoir. Donc il ne s'agit pas de célébrer les mérites intrinsèques d'une langue, parce que toutes les langues sont égales. Mais il s'agit de dire que celle-là a eu la chance de se nourrir, de s'enrichir, de s'émouvoir aussi, parce que c'est très important, au contact et avec la contribution des écrivains de langue française.
David Diop, partagez-vous ce point de vue qui est donc celui de ce grand linguiste qu'a été Alain Rey?
Oui, je partage absolument son point de vue. C'est vrai que le français accueille des horizons culturels différents. Je suis vraiment convaincu que la littérature ouvre le français à des horizons culturels et arrive finalement aussi à les transmettre par tout un jeu de travail sur la langue, sur les métaphores. On a vraiment une langue monde.
Et une langue qui n'est pas figée.
Non, aucune langue n'est figée. Alain Rey le dit aussi souvent, les langues vivent.
La francophonie, c'est un mot de votre vocabulaire? C'est toujours un mot compliqué, hein, parce qu'il y a une dimension à la fois politique et puis il y a une dimension d'usage qui est ce qu'on utilise pour se parler.
Voilà, oui,
la langue.
Alors la francophonie, moi instinctivement, je pense que quand j'entends le mot à la francophonie politique, c'est-à-dire l'Organisation internationale de la francophonie, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est une organisation politique qui, en principe, favorise la rencontre entre des gens qui parlent et qui se comprennent autour du français, mais qui s'enrichissent mutuellement et à égalité de leurs horizons culturels mutuels.
Donc c'est assez.
Alors, je pense que ce n'est jamais assez, qu'il faut vraiment favoriser les rencontres et surtout les rencontres d'artistes.
Alors, je ne sais pas quel est votre regard, si vous pensez que la francophonie gagne du terrain ou est en recul, mais on parlait tout à l'heure du Sénégal. C'est un pays qui vit une situation linguistique assez particulière parce que le français est la langue officielle et en même temps tout le monde parle wolof. À l'université, les étudiants réclament à ce que les cours soient en wolof alors qu'ils sont en français. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Est-ce que du coup, la francophonie doit maintenir ce statu quo ou au contraire, il faut que ça devienne une langue seconde et ça n'enlèvera rien à ce qu'est la beauté avec ou sans guillemets de cette langue?
Alors moi, vous m'apprenez que les étudiants de l'université de Dakar demandent à apprendre, à avoir des cours en wolof.
Pour certains, en tout cas.
Pour certains. Mais ça peut se comprendre. Justement, la langue de l'enseignement et le choix d'une langue, c'est un choix politique. L'université Cheikh Anta Diop, c'est une université qui porte le nom d'une personne qui, dans un texte connu, qui s'intitule « Nation nègre et culture », disait qu'il fallait que l'enseignement se fasse dans des langues locales, dans les langues africaines. Donc, je pense que parler et écrire et être enseigné dans sa langue maternelle, ça ne signifie pas le refus du français. Et dans ce cadre-là, j'imagine qu'une collaboration ou qu'une coopération est très importante, parce qu'il ne faut pas non plus s'enfermer. La langue française est une langue internationale qui est comprise partout, y compris qui permet à des Africains qui viennent de pays même limitrophes de se comprendre entre eux, même s'ils ne parlent pas la même langue maternelle. Donc la langue d'enseignement, je peux comprendre en effet que ça puisse être des langues locales. Il y a des écrivains comme Boubacar Boris Diop qui écrivent en français et qui traduisent leurs propres textes en wolof.
Vous en rêveriez de cela ?
De pouvoir écrire en wolof.
Ou d'être traduit en wolof.
Ah oui, ça serait extraordinaire pour moi. Mais moi-même, j'en serais absolument incapable. Je ne maîtrise pas assez bien le wolof écrit pour pouvoir le faire.
Mais vous pensez que la langue française aujourd'hui paye pour l'histoire coloniale de la France, vous qui avez écrit des livres sur ces questions-là?
Alors, je ne sais pas en quoi elle paierait quoi que ce soit. Ce que je constate quand même, c'est que les circonstances font que parfois, les étudiants qui étaient plutôt attirés par la France et l'enseignement du français, se dirigent vers d'autres pays, des pays anglo-saxons, ce qui est un danger pour la francophonie politique.
Mais c'est aussi un dommage pour la francophonie culturelle que des intellectuels ou des chercheurs aillent travailler ou écrire dans d'autres langues que le français alors qu'ils auraient pu.
Exactement. Rien de plus à ajouter.
Merci David Diop. Le pays de rêve, donc ce conte, cette nouvelle est éditée chez Rajo. Et j'imagine qu'un nouveau roman se prépare.
Oui, oui.
Mais non, encore.
Mais je ne vais pas vous en parler. Je m'entretiens avec moi-même pour l'instant encore. Et je suis en train de réfléchir, mais j'ai un projet, oui.
Merci beaucoup David Diop, de Vive Voix, Pascal Paradou, programmation, Cécile Lavolo, Tiffany Benta à la réalisation. On se retrouve demain.